Les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis.
Les clés d'une vie, celle de mon invité, le philosophe que vous êtes, demeure plus que jamais dans la course, avec un livre où vous vous interrogez sur un univers cher à Sud Radio, le sport. Nous allons donc, pendant une heure, nous renvoyer moralement la balle. Bonjour André Comte-Sponville.
Bonjour.
Alors, il y a un auteur, compositeur, interprète qui mériterait aujourd'hui de figurer dans les programmes de philosophie, c'est Guy Béard.
Elle aimait surtout vivre en équipe, toujours ont perdu les grands principes.
Les grands principes de Guy Béard, il disait que ces chevaux de bataille étaient la fin d'une société de consommation qu'il appelait la société du prêt-acheter. Et je suis sûr qu'il y avait un côté philosophe dans Guy Béard.
Oui, bah, comme souvent les poètes et les chansonniers, Guy Béard était, oui, les poètes et les chanteurs, Guy Béard était évidemment les deux, mais c'est vrai aussi, peut-être pour moi à fortiori, en tout cas il a compté bien davantage de Georges Brassens, donc oui. J'ai toujours dit que ça avait été mon premier maître de morale. Et si j'ai écrit beaucoup plus tard un petit traité des grandes vertus, qui était un traité de morale, c'est en partie grâce à Georges Brassens qui m'a indiqué dès le début de l'adolescence. Moi, quand j'avais 14-15 ans, j'écoutais Brassens en boucle. Il m'a donné le sens de la morale et d'une morale libérée de toute préoccupation religieuse. Et au fond, c'est ce qu'on appelle traditionnellement la vertu.
Exactement. On va reparler de ce livre sur la vertu tout à l'heure. Alors, vous êtes né à Paris et si vous vous appelez Comte Sponville, c'est qu'il y a une raison. C'est parce que votre père Pierre Comte a été adopté par des Sponville.
Voilà, exactement. C'est une histoire curieuse qui dit quelque chose de l'époque en même temps. Donc, mon père est né en 1912 à Paris, rue Chevert en l'occurrence, où il habitait. Son père était boulanger, donc un petit commerçant. Et il se trouve que mon père, Pierre Comte, était le troisième enfant de la famille et qui plus est le troisième garçon. Et sa mère souhaitait une fille. Et puis surtout, l'appartement était petit. Alors que les voisins de palier, monsieur et madame Sponville, n'avaient pas d'enfants du tout, mais avaient en gros le même appartement. Et donc, monsieur et madame Sponville ont dit à monsieur et madame Comte, écoutez, c'est idiot, on a le même appartement, vous avez trois enfants, nous on n'en a aucun, si vous voulez on va prendre le petit Pierre chez nous. Et donc mon père a passé toute son enfance chez les voisins de palier, monsieur et madame Sponville, qui étaient respectivement son parrain et sa marraine, et à sa majorité. Et alors ensuite, monsieur Sponville a adopté officiellement mon père, qui est devenu donc son fils adoptif, et donc mon père, par piété filiale, a conjoint à sa majorité le nom de son père biologique, monsieur Comte, et le nom de son père adoptif, monsieur Sponville, et c'est pourquoi je m'appelle Comte Sponville.
Alors, votre enfance aussi n'a pas été simple. Je crois que votre mère était un peu dépressive, votre père était un peu autoritaire. C'était pas simple pour vous, André Comte-Sponville?
Oui, non, bien sûr, c'était pas simple. Ma mère était plus qu'un peu dépressive. Elle était vraiment dépressive. C'est une femme malheureuse. Elle était malheureuse et dépressive. C'est pas la même chose, mais il se trouve qu'elle était les deux. Mon père, effectivement, était très... très dur, pas violent, mais très, très dur, très méprisant, très rejetant, aussi bien avec ma mère qu'avec ses trois enfants, ma sœur, mon frère et moi. Si bien que j'ai passé toute mon enfance dans le malheur de ma mère. Au fond, c'est ça qui m'a le plus marqué. J'ai appris à vivre, à penser, à aimer dans le malheur de ma mère, ce qui m'a donné ce côté un peu grave, un peu mélancolique. Moi, je fais partie des gens pour qui le bonheur ne va jamais de soi. Et c'est sans doute pourquoi j'ai eu besoin de philosopher et d'avoir une philosophie, justement, qui aide à vivre, pas une philosophie qui soit de pure théorie. Moi, je pense que le but de la philosophie, c'est le bonheur. Mais c'est pourquoi on a d'autant plus besoin de philosopher qu'on est moins doué pour le bonheur. Et moi, à cause de cette enfance un peu difficile, le fait est que j'étais très peu doué pour le bonheur et donc j'ai eu besoin de beaucoup philosopher.
Alors, ça, tout s'est déclenché, je crois, au lycée François Villon, grâce à l'aumônier qui s'appelle Bernard Feuillet, qui vous a fait découvrir Kierkegaard et en particulier Crainte et Tremblement, André Comte-Sponville.
Oui, il m'a fait découvrir pas seulement ça. D'abord, il m'a fait redécouvrir la religion. Maintenant, je suis parfaitement athée, mais à l'époque, j'étais croyant, catholique, pratiquant, mais dans une famille où ça n'apportait guère. Mon père et ma mère n'allaient pas à la messe. Ils étaient catholiques de tradition, mais pas du tout pratiquants. Et j'ai eu la chance, parce que je crois que c'est une chance, d'avoir au collège puis au lycée deux aumôniers remarquables, qui étaient le père Jaffrès au collège, le père Bernard Feuillet au lycée, qui étaient les deux figures d'humanité les plus belles que j'ai rencontrées durant toute mon enfance. Et donc, tout athée que je sois devenu, moi je n'ai aucune rancœur contre la religion. Je compare souvent mon cas à celui de Michel Onfray, qui au contraire a eu moins de chance que moi. Il est tombé dans un orphelinat de prêtres salésiens, quand bien même ses parents étaient vivants par ailleurs, qui était ce que l'Église peut proposer de pire. Alors que moi, au contraire, j'ai rencontré ce que l'Église peut proposer de meilleur, des prêtres d'exception. Et donc, quand je perdrai la foi vers l'âge de 17-18 ans, je n'aurai aucune animosité contre l'Église catholique et même une certaine reconnaissance par fidélité avec ces deux prêtres formidables.
Oui, d'autant plus que vous avez songé à devenir prêtre. Je crois que vous avez fait des retraites à la Trappe et à la communauté de Thésée.
Oui, songer, non, c'est trop dire. Disons que, je me souviens une fois, ma sœur, on sortait de la messe, justement, je devais avoir 12, 13 ans, je ne sais plus. Ma sœur m'avait demandé, mais tu ne te verrais pas devenir prêtre et... La question ne m'a pas paru absurde, mais en même temps, j'ai répondu non. J'ai répondu non d'abord parce que là, je sentais que je n'avais aucune vocation pour la chasteté. Rétrospectivement, je pense que j'avais raison. Voilà, donc ça n'a jamais été un projet. Mais disons que la question ne m'a pas paru absurde, mais ça n'a jamais été mon intention.
Mais la retraite à la communauté de Thésée, notamment, c'est un lieu très connu pour la bière trappiste.
Oui, là, mais moi je suis allé à Thésée, mais je suis allé à la Trappe, la vraie Trappe. Et là encore, c'est des expériences à la fois spirituelles et humaines qui m'ont vivement impressionné. Moi, je m'intéresse à la vie spirituelle. Encore une fois, être athée, ça n'est pas renoncer à toute spiritualité, bien au contraire. Mais cette vie-là, la vie contemplative, dans le silence, ça m'a beaucoup, beaucoup impressionné. Et encore aujourd'hui, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour les moines et pour les religieuses, et je dirais pour les trappistes en particulier, parce que c'est sans doute ce qu'il y a de plus austère et de plus exigeant dans la vie contemplative.
Oui, en même temps, ils travaillent beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup de fromages qui sont fabriqués chez les moines, en particulier trappistes. Et la semaine dernière, les moines de l'abbaye de Cîteaux se sont retrouvés avec une tonne de fromage à vendre d'urgence à cause du confinement. Eh bien, ils ont vendu ça en quelques jours grâce à Internet. Ils se sont inscrits sur Internet, ça a marché comme quoi, et c'est pas le miracle, c'est l'organisation.
Voilà, comme quoi la foi n'empêche pas la modernité.
Alors, ce qui a déclenché aussi votre côté athée, c'est une rencontre en terminale avec un résistant qui a dirigé les opérations à Toulouse, qui s'appelle Pierre Hervé, André Comte-Sponville.
Oui, qui est un excellent professeur de philosophie, c'était mon prof de philo en terminale. Héros de la résistance, en effet, véritable héros. J'en ai parlé avec Edgar Morin, qui était un ami proche de Pierre Hervé. Et Edgar Morin a une grande admiration pour le héros véritable qui était Pierre Hervé, qui a été aussi rédacteur en chef de l'Humanité, donc ancien communiste, exclu du Parti communiste en 1956 parce qu'il avait critiqué Staline quelques mois trop tôt, si l'on peut dire, mais qui était un formidable professeur de philosophie. Je ne pense pas que ce soit grâce à lui ou à cause de lui que je suis devenu athée. Lui-même était athée, mais ne faisait aucun prosélytisme en faveur de l'athéisme. Non, non, simplement, moi je crois que ce qui a fait que j'ai perdu la foi, en vérité, c'est des raisons assez peu philosophiques. C'est plutôt mai 68. C'est-à-dire, j'avais 16 ans, j'étais en seconde, donc j'avais pas encore fait de philosophie, mais j'ai été pris, comme des milliers d'entre nous, d'une passion politique dévorante. Je me suis réveillé d'extrême gauche vers le 13 mai au matin, mais que ça suppose de naïveté, voire de niaiserie, de panurgisme, mais aussi d'enthousiasme, de sincérité, de spontanéité. Et la passion politique m'a tellement pris que tout d'un coup, la religion m'a paru beaucoup moins intéressante que la révolution. Et donc, comme je l'ai écrit, Dieu cessa d'abord de m'intéresser et puis j'ai cessé d'y croire, vous voyez. Mais le désintérêt est venu, au fond, avant la perte de la foi. Alors, beaucoup plus tard, après, je trouverai des arguments pour justifier mon athéisme. Mais moi, je crois que c'est quelque chose d'important et qu'il faut dire à nos auditeurs, c'est que le plus souvent, les arguments viennent après. C'est-à-dire qu'on a une position pour des raisons un peu mystérieuses qui tiennent à l'histoire, au cheminement, partiellement conscient, partiellement inconscient, qui tient aux influences, aux amis, etc. Puis après coup, on trouve les arguments qu'il faut. Eh bien, c'est ce qui s'est passé pour moi, je l'avoue tout à fait honnêtement. J'ai d'abord perdu la foi, et encore une fois plus du fait de la passion politique que du fait d'une réflexion philosophique. Mais après, j'aurai des années pour essayer de comprendre la position philosophique, métaphysique qui est devenue la mienne.
Voilà, et on va en parler dans quelques instants avec une autre date, le 3 février 1995. À tout de suite sur Sud Radio avec André Comte-Sponville.
Les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité André Comte-Sponville. On parlera tout à l'heure de ce livre qui a le meilleur gagne chez Robert Laffont. On parlera de sport. Et pour l'instant, on revient à une autre date, 3 février 1995. C'est la sortie officielle d'un livre dont on a parlé il y a quelques instants, Le Petit Traité des Grandes Vertus, 18 vertus qui permettent de faire un individu meilleur et plus humain. Et ça, c'est quelque chose qui a été un best-seller.
Oui, ça a été un vrai best-seller. Beaucoup de mes amis me disent qu'aucun livre de philosophie ne s'est jamais vendu à ce point, puisque on en a vendu 300 000 exemplaires en 2 ans, sans compter les livres de poste qui viendront après, et sans compter les traductions.
24, je crois, traductions.
Oui, 24 langues différentes, c'est ça. Donc oui, c'est un best-seller sans précédent, en tout cas en philosophie, c'est-à-dire qu'il s'est vendu en gros autant qu'un prix Goncourt, ce qui n'arrive pratiquement jamais, et bien pour un livre de philosophie. Alors moi, j'en étais très content, d'abord parce que ce qui va me permettre à terme d'arrêter d'enseigner, puisque du coup, j'ai gagné quand même beaucoup d'argent avec ce livre, et donc j'ai arrêté d'enseigner pour pouvoir consacrer davantage de temps à l'écriture, mais surtout, l'important, c'est pas ça, l'important, c'est que ce livre a marqué le retour de la morale dans la philosophie. Parce qu'au fond, pour les gens de ma génération, et pour nos maîtres, Althusser, Derrida, Deleuze, Foucault, la morale était une vieille lune totalement dépassée, totalement ringarde. Il était de bon ton de vivre par-delà le bien et le mal, comme disait Nietzsche. Il était de bon ton de se dire immoraliste, voyez. Et puis tout d'un coup, il y a un jeune philosophe, puisque je devais avoir 33 ans, voilà, c'est ça. Il y a un jeune philosophe qui se met à nouveau à parler de morale et à en parler sérieusement, et qui plus est avec ce vieux mot suranné de vertu. Et donc mes collègues étaient totalement surpris. Qu'est-ce que c'est que ce philosophe inconnu qui réutilise ce mot, ce vocabulaire dépassé de la vertu, et puis patatras, succès monumental. Et je crois que ce succès s'explique, peut-être outre les qualités éventuelles du livre, mais comme souvent par la rencontre entre un auteur et une génération. Donc l'auteur, c'était moi, bien sûr. La génération, ben, c'est ma génération, celle des 68ards, qui en effet avait grandi dans l'idée vivre par-delà le bien et le mal. Il est interdit d'interdire. Vivons sans temps mort, jouissons sans entrave. Autrement dit, dans ce qu'on peut appeler l'immoralisme 68ard. Sauf que quelques années plus tard, les 68ards sont devenus des trentenaires. Ils ont fait des enfants. Il faut bien qu'ils les éduquent, et ils découvrent que tout d'un coup, quand on a des enfants, non seulement il n'est pas interdit d'interdire, mais il est interdit de ne pas interdire. Et donc ils découvrent, ces 68ards devenus père et mère de famille, qu'il faut bien transmettre des valeurs morales. Mais quelles valeurs morales? Puisque celles qu'on avait reçues, les vieilles valeurs dites judéo-chrétiennes, étaient réputées ringardes, castratrices, culpabilisatrices. Et donc voilà, tout d'un coup, mon livre a parlé à ces générations, la mienne, les 68ards devenus père et mère de famille, ça les a aidés à comprendre qu'il fallait en effet, c'était notre devoir, transmettre des valeurs morales à nos enfants. Et le pire, c'est que les valeurs morales que nous devions transmettre, pour l'essentiel, c'était les mêmes que celles que nous avions reçues.
Et aujourd'hui encore, ces valeurs morales sont en activité. Et quand on connaît ce traité des grandes vertus, ben on s'aperçoit que vous étiez en avance sur votre temps, parce qu'aujourd'hui, on parle du féminisme, on parle du viol. Tout ça, vous l'avez traité dans ce livre bien en avance, André Comte-Sponville.
Oui, parce qu'effectivement, c'était encore une fois le retour. Alors, quelques auteurs avaient encore parlé de morale, notamment Vladimir Yankelevitch, mais qui à l'époque était très, très peu lu. Mais oui, ça a marqué le retour de la morale dans la philosophie, la morale prise au sérieux par la philosophie. Et donc, effectivement, c'est un livre donc, qui a des années de maintenant, mais je crois que j'aurais rien à corriger, parce qu'en effet, la morale ne change pas comme la mode. Hein. Les valeurs morales, au fond, qui sont là, elles sont là pour la plupart depuis 20 ou 25 siècles. Et notre devoir, c'est en effet de transmettre ces valeurs que nous avons reçues.
Et en touchant le grand public, ce que vous n'imaginiez pas au départ.
C'était un peu mon but quand même. Hein. Je savais que ce livre pouvait marcher très fort. Moi, je m'adresse à ce qu'on peut appeler le grand public cultivé, les gens qui lisent des livres, si vous les voyez. Mais je veux pouvoir être compris par des gens qui n'ont jamais fait de philosophie. Et tout le monde me reconnaît effectivement une grande clarté, un talent pédagogique. Et je crois qu'en effet, c'est nécessaire parce que la philosophie n'est pas réservée aux spécialistes. La philosophie, elle s'adresse à tout le monde parce que la raison nous est commune, c'est la même raison en chacun. Et donc, pour moi, un bon philosophe doit pouvoir être compris par toute personne normalement cultivée.
Alors, ce livre, c'est aussi le résultat d'années de travail et d'enseignement, et même pour vous, d'enseignement, c'est-à-dire qu'il y a eu vos études supérieures, l'école normale supérieure, il y a eu la formation dans différents lycées, et c'était une formation en un temps où les professeurs étaient encore respectés, et je crois qu'en particulier, il y a eu le lycée Joseph Fourier à Auxerre, où vous avez enseigné.
Oui, j'ai enseigné d'abord à Landrecy, dans le nord de la France, et puis au lycée Joseph Fourier, en effet, à Auxerre, qui est un lycée technique, alors qu'à Landrecy, c'est un lycée classique. Et puis après 3 ans à l'école normale d'instituteurs de Melun, en Seine-et-Marne, et puis après, en effet, j'ai été élu assistant, puis maître de conférence à l'université Paris 1, donc concrètement à la Sorbonne.
Alors Joseph Fourier, on l'a un peu oublié aujourd'hui, c'est un physicien qui est probablement l'un des premiers à avoir proposé en 1824 une théorie qui est celle, c'est l'effet de serre aujourd'hui. Il a inventé ça et on ne l'a pas pris au sérieux à l'époque, on voit où on en est aujourd'hui.
Voilà, voyez.
Alors, effectivement, votre première tâche, lorsque vous entrez après l'école normale, c'est de former des instituteurs, avant de former des élèves, André Comte-Sponville.
Oui, donc j'ai d'abord été prof en terminale, donc là je formais de futurs bacheliers, mais c'est vrai qu'entre le lycée et la Sorbonne, j'ai passé 3 ans donc, à l'école normale d'instituteurs de Seine-et-Marne, à Melun, où le but était de former des instituteurs, ce qu'on appellera après les UFM, je crois que ça a encore changé de nom depuis, et ça m'a intéressé parce que ça m'a obligé à m'intéresser d'abord à la psychologie de l'enfant. Je faisais de longs cours sur Piaget, sur Freud, etc. Ça m'a obligé à m'intéresser à la pédagogie. Là, j'allais voir mes élèves en stage quand ils faisaient eux-mêmes classe dans les écoles primaires. Et en même temps, je tenais à rester philosophe. C'est-à-dire que je voulais que les cours que je faisais, qui rentraient dans la catégorie des cours de psychopédagogie, comme on disait à l'époque, soient en même temps des cours de philosophie.
Alors, vous passez ensuite une thèse de doctorat, vous devenez assistant au département philosophie de la Sorbonne, qui est dirigé par Robert Misrahi, qui était secrétaire de Jean-Paul Sartre. Et ça, Sartre, pour vous, c'est un maître.
C'est un maître, j'ai beaucoup d'admiration et de tendresse pour lui. Je l'ai rencontré une fois, mais ça n'a pas d'importance. Mais en même temps, c'est un maître dont je me suis éloigné. C'est-à-dire que sa philosophie n'est pas du tout la mienne. C'est vrai qu'à 16 ans, je voulais être Sartre ou rien. Hein, de même que Victor Hugo voulait être Chateaubriand ou rien. Et finalement, dans la suite de mon évolution, il y a beaucoup de philosophes qui ont compté beaucoup plus que Sartre, à commencer par des philosophes plus anciens, Épicure, Montaigne, Spinoza, mais aussi des philosophes modernes, contemporains, comme Marcel Conche, Clément Rosset ou Claude Lévi-Strauss, qui est moins philosophe qu'ethnologue, mais ce sont des gens dont je me sens aujourd'hui beaucoup plus proche que de Jean-Paul Sartre.
Oui, en même temps, on continue aujourd'hui à étudier Jean-Paul Sartre à l'école. Il y a une chose étonnante que j'ai trouvée sur Internet, il y a une playlist des chansons qui colleraient à la philosophie de Sartre, et celle qui est numéro 1, c'est celle-ci.
Encore un matin, un matin pour rien, une argile au creux de mes mains.
Jean-Jacques Goldman, encore un matin, c'est le numéro 1 sur la playlist des chansons permettant d'aller vers l'étude des philosophes.
Écoutez, je suis content de l'apprendre. Moi, j'écoute peu de chansons aujourd'hui. J'écoute plutôt de la musique classique de la chanson. Donc, quand j'étais jeune, je vous disais, j'écoutais beaucoup Brassens, Brel, Piaf, Barbara. Mais c'est vrai que ce goût pour la chanson m'a un peu passé. Donc, je connais beaucoup moins les chansons d'aujourd'hui.
Alors, vous avez été aussi, et c'était une nouveauté, maître de conférence. Ce titre qui est banal aujourd'hui, il est né d'une réforme de l'enseignement d'Alice Saunier-Soyité quand elle était ministre. Et ça aussi, vous avez été un des pionniers du genre. Les maîtres de conférence, ça n'existait pas. Vous avez été un
oui,
des premiers.
Oui, mais là, j'étais pour rien. Il se trouve qu'on a créé ce poste. Enfin, bref.
Qu'est-ce que c'est un maître de conférence qu'aujourd'hui, on ne sait plus ce que c'est tellement il y en a.
Ça veut dire qu'il est était un enseignant, il est prof de philo dans le supérieur, mais il y avait deux grades, il y avait les professeurs qui faisaient, je ne sais plus quoi, 5 heures de cours par semaine, qui dirigeaient les thèses, et puis les maîtres de conférences, qui étaient le degré en dessous, qui devaient faire, je ne sais plus quoi, 9 ou 10 heures de cours par semaine, donc en gros le double d'un professeur, qui ne dirigeait pas de thèse, mais qui corrigeait les copies.
Et ça, ça a été aussi une voie qui vous a amené à la philosophie. C'est-à-dire que vous n'avez cessé de progresser dans ce domaine.
Ben oui, parce que j'ai beaucoup travaillé. Alors, c'est vrai que être prof en lycée, c'est très bien parce que c'est comme ça qu'on apprend les bases. À force de transmettre ces bases à ses élèves, on finit par connaître les grands textes par cœur ou quasiment. Et puis, dans le supérieur, ben, ça permet d'approfondir. C'est vrai que j'ai enseigné pendant 14 ans et je trouve qu'enseigner, c'est sans doute la meilleure façon d'apprendre pour soi.
Exactement. Et après, vous avez appris d'autres choses. On en parle avec une autre date, le 29 septembre 1996. À tout de suite sur Sud Radio avec André Comte-Sponville.
Les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité André Comte-Sponville. On va parler tout à l'heure de Que le meilleur gagne, un livre sur le sport. Mais là, on revient au 29 septembre 1996. Ce jour-là, vous êtes à Étretat à cause de lui.
C'est le plus grand, le plus charmant, le plus élégant, avec ses gants, ou bien...
Arsène Lupin. Car ce jour-là, vous êtes à Étretat, vous êtes l'invité d'honneur du rendez-vous annuel de l'Association des Amis d'Arsène Lupin à cause de votre livre « Arsène Lupin, Gentleman Philosopher ».
Oui, qui est un livre coécrit avec mon ami François Georges et à l'initiative, en vérité, de François Georges. Moi, je n'étais pas un grand lecteur d'Arsène Lupin dans ma jeunesse, mais il se trouve que François Georges, lui, était un admirateur d'Arsène Lupin et donc m'a embringué dans cette histoire. Donc, j'ai lu à peu près tout Arsène Lupin, mais très tard. Moi, je l'ai lu en étant adulte. Et nous avons fait ce petit livre ensemble, qui est un livre de philosophie gag. C'est-à-dire que François Georges avait fait une conférence qui a été publiée dans ce livre sur les preuves de l'existence d'Arsène Lupin, qui est un remake des preuves de l'existence de Dieu telles qu'on les trouve dans la plus classique des traditions philosophiques. Et moi, j'avais fait un exposé sur la morale d'Arsène Lupin, où je montrais la profondeur des idées morales d'Arsène Lupin. Et ce que j'aime bien dans ce petit livre, c'est que c'est ta relève d'un gag, c'est un peu pour faire rire. Et en même temps, c'est vraiment de la philosophie. Et je crois qu'il y a très peu de textes philosophiques vraiment humoristiques. Ben voilà, François Georges et moi, nous avons réussi à en faire un.
Oui, car vous avez démontré effectivement que c'était un cambrioleur, mais il y avait ce côté gentleman qui excusait beaucoup de choses.
Et surtout le côté philosopheur, c'est essayer de montrer qu'il y avait dans l'œuvre de Maurice Leblanc, puisque c'est Maurice Leblanc l'auteur bien sûr, qu'il y avait finalement une pensée à l'œuvre.
Alors, cette association des amis d'Arsène Lupin se réunit tous les ans, avec je crois la petite fille de Maurice Leblanc qui s'appelle Florence Leblanc, et c'est à Étretat où il y avait la maison de Maurice Leblanc, qui s'appelait le Clos Lupin. Et il y a une chose qu'on a découvert il n'y a pas longtemps, c'est que en fait, sur les dessins, au départ, on voit Arsène Lupin avec un frac et un monocle, alors que dans les premiers livres, ce n'était pas du tout le cas. C'est l'illustrateur Léo Fonton qui les a dessinés et imaginés.
Ah, c'est bien possible. Encore moi, je ne suis pas un spécialiste d'Arsène Lupin. Je ne vais plus à ces réunions annuelles depuis bien longtemps, en vérité.
Et à l'époque, je crois, François Georges présidait cette association. Mais depuis, alors, il a un côté, paraît-il, misanthrope. Il apparaît le moins possible à la télévision et il signe des livres chez des éditeurs confidentiels afin de ne pas être suivi par un grand public.
Et il les signe sous pseudonyme,
plus est. Oui, c'est curieux quand même.
Oui, ben, il est comme ça.
Voilà. Et vous avez vu le Arsène Lupin avec Omar Sy à la télévision ?
Non, pas du tout. Non.
Parce que c'est tout à fait différent, c'est plus du tout Lupin. Alors, vous sortez des sentiers battus puisque vous êtes consacré à l'écriture et aux conférences. Car lorsque vous avez abandonné l'enseignement, André Comte-Sponville, vous vous êtes tourné vers les conférences. Ça a été quelque chose de très particulier, aussi bien pour les entreprises que pour d'autres.
Oui, c'est un peu ce monde-là, le monde de l'entreprise qui est venu me chercher. Moi, ce n'était pas du tout mon but. En l'occurrence, c'est venu de Jean-Louis Servan-Schreiber, qui à l'époque dirigeait l'Expansion, qui était le grand journal du management français, le grand journal économique français. Il m'avait une fois invité à dîner chez lui parce qu'il avait aimé mon premier livre. On ne se connaissait pas du tout. Et puis, quelques mois après cette première rencontre, il m'appelle pour me proposer de participer à un colloque qu'il faisait à Vienne, en Autriche, ou plutôt à Salzbourg, en Autriche, devant tous les patrons du CAC 40, avec d'autres experts qui étaient Raymond Barre, Michel Rocard, des économistes. Jean-Louis Sarchevert me dit « Je voudrais qu'il y ait un philosophe et je voudrais que ça soit vous ». Et moi, bien sûr, je refuse. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire à Salzbourg? En plus, il fallait s'acheter un smoking pour aller à l'opéra, pour parler à des chefs d'entreprise, patrons du CAC 40, dont je n'avais rien à faire. Et donc, je refuse. Et Jean-Louis Servan-Schreiber réagit en chef d'entreprise. Il me fait une proposition financière que je n'étais pas en état de refuser. C'est-à-dire qu'en 3 jours à Salzbourg, j'allais gagner en gros ce que je gagnais en 1 mois à la Sorbonne. Donc, du coup, finalement, j'accepte. Et ce qui s'est passé, c'est que ce que j'ai dit à ces chefs d'entreprise les a surpris, frappés et au fond passionnés. Ils ont découvert que la philosophie, ça pouvait être passionnant, y compris appliqué aux problèmes du monde contemporain, aux problèmes de l'économie, aux problèmes de l'entreprise. Et donc, après cette conférence qui a été publiée dans l'Expansion, du moins la teneur de mes propos a été publiée, j'ai été accablé de demandes venant de l'entreprise, me demandant de faire des conférences. Et comme à l'époque, j'avais arrêté d'enseigner, ou j'arrêterai quelques années plus tard, je ne sais plus bien quelles sont les dates exactes, mais il fallait quand même que je gagne ma vie, parce que les droits d'auteur, ça dure quelques années, mais ce n'est pas une garantie sur la longue durée. Et donc, ces conférences m'ont permis à la fois de gagner ma vie, et je n'en ai aucunement honte, mais aussi de confronter ma philosophie au monde réel. Parce que, comme je dis souvent à mes collègues, il y a beaucoup plus de monde dans l'entreprise qu'à la Sorbonne, malgré tout. Le monde réel est davantage à l'entreprise que dans les facultés. Et ça m'a permis donc de me confronter au monde tel qu'il est, d'abord d'y réfléchir, de le comprendre un peu mieux, et d'éviter de m'enfermer dans la tour d'ivoire des concepts ou de l'histoire de la philosophie.
Et en même temps, ça vous a permis de découvrir des gens qui, eux aussi, sont souvent enfermés dans des tours qui ne sont pas en ivoire et qui ont besoin d'un regard extérieur. Je vois aujourd'hui Nathalie Péchala, Camille Lacour ou Edgar Corpiron, sportifs de haut niveau, qui font des conférences justement pour aider les équipes des entreprises.
Oui, parce que comme dit souvent les dirigeants d'entreprise, c'est qu'ils ont besoin de prendre du recul, de lever la tête du guidon, comme ils disent souvent, c'est une métaphore cycliste qu'ils emploient souvent. Et je le comprends très bien, parce qu'au fond, ce sont des gens, évidemment, souvent intelligents, mais dont l'intelligence est consacrée à résoudre 1000 problèmes quotidiens, tous plus urgents les uns que les autres, mais qui ont rarement le temps de prendre vraiment du recul et de réfléchir sur le fond des problèmes. Et donc, il est très bon qu'ils invitent parfois un philosophe, ça peut être un sportif, ça peut être un médecin, ça peut être un sociologue, que sais-je, mais qu'ils prennent le temps de réfléchir. Moi, je crois que c'est tout à fait important pour eux, mais c'est important aussi pour notre pays.
Oui, et réfléchir à toutes sortes de sujets.
Oui, alors moi, je traitais une approche philosophique de leur monde, du monde de l'entreprise. J'ai beaucoup fait des conférences sur la place de l'éthique dans l'entreprise. J'en ai fait d'ailleurs un livre que j'ai appelé « Le capitalisme est-il moral ?» avec un point d'interrogation. Et la réponse, bien sûr, est non, mais j'explique que le capitalisme n'est ni moral ni immoral, mais qu'il est foncièrement amoral. Et c'est pour ça que les chefs d'entreprise, eux, doivent avoir une morale, évidemment, qu'on ne peut pas compter sur le marché pour être moral à notre place. Donc j'ai fait ce livre, enfin, cette conférence qui est devenue un livre, « Le capitalisme est-il moral ?» Et puis je traite souvent aussi maintenant et depuis des années une conférence dont le titre est « Sens du travail, bonheur et motivation », sous-titré « Philosophie du management ». Où j'essaye d'éclairer par des concepts philosophiques le métier de manager.
Ce qui n'est pas simple. Alors, il y a la télévision aussi, puisqu'on vous voit beaucoup à la télévision. Je crois que sur tous les plateaux littéraires ou de débat de PPDA, Christine Ockrent, François Bunel et Michel Pollack, vous êtes régulièrement intervenu, André Comte-Sponville.
Oui, j'en ai fait, je crois que j'ai à peu près tous fait. J'en refuse beaucoup plus que je n'en accepte, notamment avec cette triste histoire de Covid-19. Je me souviens, j'avais fait 2 télévisions vers mars-avril 2020, donc au tout début de la pandémie, où j'ai dit ce que j'en pensais, à savoir que j'étais un peu réservé d'abord devant l'affolement médiatique que je trouvais très exagéré, et même réservé devant le confinement que j'ai respecté, parce que je suis un républicain et j'obéis aux lois de mon pays, mais je trouvais que là encore, fermer les écoles pour une épidémie dont le taux de létalité était de 0,5%, c'était un petit peu exagéré. Enfin bref, j'ai dit ce que j'en pensais, et ça a fait un tel buzz que j'ai dû refuser 22 émissions de télévision dans les 2 mois qui ont suivi. Ça ne m'était jamais arrivé. Et j'expliquais 22 fois que je n'allais pas répéter 22 fois la même chose, vous voyez. Donc voilà, donc j'ai fait beaucoup de télévision, et je continue à en faire, ou de radio, et encore, je n'en ai aucunement honte. Mais c'est vrai que j'en refuse plus que je n'en accepte, parce qu'autant je veux bien venir pour parler de mes livres, de sujets sur lesquels j'ai travaillé. Alors que souvent, les télévisions nous invitent, nous, les intellectuels, non pas pour parler de notre travail, de nos livres, mais pour commenter l'actualité, ce qui n'est pas mon travail. Alors, je l'ai fait plusieurs fois sur la Covid-19, parce que là, l'enjeu social, sociétal et même philosophique me paraissait important. Mais en même temps, je ne vais pas venir toutes les semaines commenter l'actualité ou commenter le taux de contamination de la Covid-19.
Oui, et puis ça tourne parfois au jeu du cirque, ces débats.
Oui, il y a l'aspect jeu du cirque, l'aspect polémique. Moi, j'ai horreur de... J'aime bien les débats sérieux, mais j'ai horreur de la polémique. Et puis surtout, vous savez, maintenant, avec Internet, vous avez dit une chose à la télévision une fois, n'importe qui peut le retrouver indéfiniment. Et donc, ce n'est pas la peine de faire toutes les chaînes de télé ou de radio pour répéter 20 fois la même chose.
Oui, et qui est déformé en général ensuite.
Alors après, c'est déformé sur les réseaux sociaux. Ça, c'est encore autre chose, mais moi, je ne fréquente pas les réseaux sociaux, donc par chance, je suis à l'abri de tout ça.
Et la technologie a évolué, puisqu'il fut un temps où, dans les procès, on interdisait les enregistrements radiophoniques parce qu'il pouvait y avoir un montage d'une bande qui truquait ce qu'on entendait. Maintenant, ça a évolué. Alors, finalement, effectivement, ce n'est pas votre image qui compte lorsque vous êtes à la télévision, André Comte-Sponville, c'est vraiment le message que vous voulez faire passer.
Oui, bien sûr, et heureusement. Et c'est important aussi parce qu'aujourd'hui, l'agora, comme on dit, l'espace de débat public, ça passe entre autres par la télévision, ça passe aussi bien par Internet. Et donc voilà, donc moi je suis un intellectuel citoyen, donc j'essaye de participer au débat public à la mesure de mes moyens, dans les limites de mes compétences, mais encore une fois, toujours avec réserve. D'abord parce que je n'aime pas ça. Je n'aime pas passer à la télévision, c'est du stress. C'est du temps perdu, enfin bref. Donc j'essaye de limiter mes interventions télévisuelles le plus possible, mais je ne peux pas non plus tout refuser parce que j'aurais le sentiment de déserter justement l'espace du débat public.
Et puis vous défendez le bonheur que vous n'avez pas connu étant enfant, et vous dites comme Voltaire que vous êtes décidé, André Comte-Sponville, vous avez décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé.
Non, ça c'est ce que dit Voltaire, oui. Et moi je ne dirais pas ça. Parce que quand Voltaire dit ça, ça veut dire qu'au fond, il met la santé plus haut que le bonheur. Et ça, c'est exactement ce que j'appelle le pan médicaliste, c'est-à-dire faire de la santé la valeur suprême. Moi, je n'en crois rien. Moi, je dirais l'inverse. J'essaye de rester en bonne santé parce que c'est bon pour le bonheur. Voilà. Mais la valeur suprême, de ce point de vue, ce n'est pas la santé, c'est le bonheur. Et bien sûr, il est, pour être heureux, mieux vaut être en bonne santé, vous voyez. Mais ne faisons pas de la santé la valeur des valeurs, ne faisons pas de la santé la valeur suprême. Je crois qu'il y a plus important que la santé, il y a le bonheur en effet, mais il y a aussi la liberté, la justice, l'amour. Voilà les vraies valeurs suprêmes.
Et des valeurs que les philosophes défendent au mieux, comme vous.
Oui, ça fait partie de notre métier. Et ce qui m'a beaucoup inquiété dans cette pandémie, dans les mesures qui ont été prises pour la combattre, mesures, encore une fois, que je ne condamne pas, que je respecte, mais c'est qu'à force de faire de la santé la valeur suprême, on risque de sacrifier l'amour de la vie à la peur de la mort, si vous voulez. Et autant j'aime la vie, autant je n'ai pas peur de la mort et je n'ai pas envie de passer ma vie à essayer de ne pas tomber malade. Imaginez un gamin de 15-16 ans qui demande à son père quel est le sens de la vie. Vous imaginez que le père lui réponde « Le sens de la vie, mon fils, c'est de ne pas tomber malade. » Si c'est ça qu'on propose à nos enfants, bonjour, le sens de la vie. Donc voilà, respectons les gestes barrières, faisons-nous vacciner dès que possible. Soyons responsables, évidemment, mais ne faisons pas de la santé la valeur suprême. Ne pas tomber malade, ça n'est pas un sens, ça n'est pas un but suffisant dans l'existence.
Alors, parmi les titres que vous avez, il y en a un étonnant, André Comte-Sponville, vous êtes docteur honoris causa de l'Université de Mons en Belgique.
Oui, aussi de l'Université de Mexico, au Mexique. Ce sont des honneurs, c'est un titre... symbolique, mais toujours gratifiant. Ça veut dire que telle ou telle université étrangère s'intéresse à vos travaux et en salue la qualité. Écoutez, j'aurais tort de m'en plaindre.
D'ailleurs, c'est un philosophe belge qui s'appelle Michel Meyer qui a dit de vous que vous étiez l'un des plus grands philosophes français depuis Sartre.
Oui, en effet, c'est le directeur de la Revue internationale de philosophie, Michel Meyer, et je lui en suis très reconnaissant.
Et ça vous encourage à continuer à réfléchir sans cesse?
Oui, sans cesse, mais je n'ai pas besoin d'encouragement, parce que d'abord, c'est ce que j'aime le plus faire, en vérité, avec les plaisirs de la vie privée, mais comme activité professionnelle, c'est de très loin ce que je fais le mieux et ce qui m'intéresse le plus. Donc, je n'ai aucune raison d'arrêter.
Surtout qu'il y a encore beaucoup de choses à trouver, beaucoup de réflexions à avoir.
Oui, de choses à trouver ou à retrouver. Parce que vous savez, en philosophie, ça fait 25 siècles que la philosophie existe. Moi, je ne rêve pas d'inventer une philosophie totalement neuve. Nous sommes tous des héritiers. Et je crois que c'est bien. Je crois que mon métier, c'est en partie de rendre accessible au grand public ces 25 siècles d'histoire de la philosophie, et puis d'ajouter ma petite pierre. Je ne prétends pas avoir la même philosophie qu'Épicure, Montaigne ou Spinoza, pour citer mes philosophes de prédilection. Non, moi j'essaie d'avoir une philosophie pour notre temps, mais une philosophie pour notre temps, forcément, elle prolonge 25 siècles de philosophie passée.
Et une petite pierre, vous l'ajoutez, on en parle dans quelques instants avec une autre date, le 11 mars 2021. A tout de suite sur Sud Radio avec André Comte-Sponville.
Les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité André Comte-Sponville. Donc, le 11 mars 2021 est sorti Que le meilleur gagne chez Robert Laffont, un livre de philosophie sur un domaine qu'on n'imagine pas chez un philosophe, le sport. Pourquoi ce livre, André Comte-Sponville ?
D'abord, c'est un travail de commande. C'est les gens de l'INSEP, donc l'Institut National du Sport, donc des gens dont le sport est la passion, le métier, la vie, finalement. On demandait à plusieurs intellectuels de réfléchir sur le sport. Par exemple, Edgar Morin, Boris Cyrulnik, Michel Serres et moi. Et donc, le livre en question, c'est le mien, évidemment. Et j'essaie d'expliquer ce que je pensais du sport. Alors, pourquoi s'intéresser au sport quand on est philosophe? D'abord, parce que le sport est une activité spécifiquement humaine. Et tout ce qui est humain, évidemment, intéresse les philosophes. Parce que, qu'est-ce que c'est que le sport ? C'est bien sûr une activité physique, mais très singulière. Parce que c'est une activité physique auto-centrée, auto-finalisée. Par exemple, courir, ça devient du sport quand on court pour courir, ce qui est très rare, parce qu'évidemment, le lion, par exemple, peut courir après la gazelle. La gazelle peut courir devant le lion. Mais personne ne dira que le lion et la gazelle font du sport. Simplement, ils courent. Et de même, si vous courez pour attraper votre bus ou pour fuir un agresseur, on ne dira pas que vous faites du sport. On fait du sport quand on court pour courir mieux plus tard, c'est ce qu'on appelle l'entraînement. Quand on fait du sport pour courir mieux qu'un autre, c'est ce qu'on appelle la compétition. Quand on fait du sport pour courir plus vite qu'on ne courait avant, quand on veut battre un record, vous voyez. Et donc cette course, courir pour courir, ou jouer au football pour jouer au football, là c'est vraiment du sport. Et je pense que l'espèce humaine est la seule espèce qui pratique le sport, c'est-à-dire cette activité physique auto-centrée, auto-finalisée. Et donc forcément, le philosophe doit y réfléchir. Mais qui plus est, dans notre société, le sport a pris une place exorbitante. Jamais le sport n'a été aussi médiatisé, aussi célébré qu'aujourd'hui. Et là, en tant que père de famille, d'abord, moi j'ai trois garçons qui étaient qui sont toujours d'ailleurs trois passionnés de football, trois footeux, comme on dit. Et en tant que citoyen, forcément, j'avais envie de réfléchir à la place que le sport occupe dans notre société. Et c'est ce que j'ai voulu faire dans ce petit livre, Que le meilleur gagne.
Alors, effectivement, le sport, d'abord pendant le confinement, on a vu courir des gens dans les rues, plus de 40% d'augmentation, et des sportifs qui ne faisaient rien avant et qui sortaient de leur maison ou de leur appartement pour avoir une activité, pour oublier ce confinement. Mais il faut se dire aussi qu'à Sud Radio, nous aimons le sport, puisque tous les samedis, nous avons le rugby sur Sud Radio, on va en reparler, mais c'est quelque chose cher aux auditeurs et c'est un sport complet. Alors, vous dites aussi que le meilleur gagne, parce qu'effectivement, vaut mieux gagner sur un terrain de sport que sur un champ de bataille, André Comte-Sponville.
Oui, bien sûr, quitte à dépenser son énergie, voire sa part légitime d'agressivité, mieux vaut le faire dans le sport que dans la bagarre, ou à fortiori que dans la guerre. Mais il y a aussi autre chose dans ce titre que le meilleur gagne. C'est-à-dire, au fond, l'une des choses que j'aime bien dans le sport, y compris dans le sport de compétition, c'est qu'il peut redonner à nos enfants le sens de l'émulation, le sens de la compétition, le sens de l'ambition. Parce qu'au fond, ce qui me gêne souvent dans nos écoles, c'est que les bons élèves ne sont pas tellement valorisés. Leurs camarades souvent se moquent d'eux, les bons élèves se font traiter de bouffons par leurs camarades, et les professeurs souvent ne les valorisent pas autant qu'ils le pourraient, parce que souvent dans les classes, on a supprimé les classements pour ne pas humilier les mauvais élèves, mais aussi pour ne pas trop gratifier les bons, pour ne pas leur donner trop d'ambition, trop d'émulation. Mais enfin, que je sache, l'ambition, ce n'est pas un défaut. L'émulation, ce n'est pas un défaut. Avoir envie d'être le meilleur de sa classe, ce n'est pas un défaut. Et le paradoxe, c'est qu'on voit de jeunes enfants qui n'ont jamais eu de classement à l'école, qui parfois n'ont même pas de notes, et qui connaissent par cœur le classement de la Ligue 1 en football. Mais oui, parce que l'émulation, l'ambition, la compétition, ça fait partie de la condition humaine. Eh bien, je dis que si le sport réconcilie nos enfants avec l'idée d'émulation, de compétition et d'ambition, eh bien, c'est une bonne chose.
Oui, d'ailleurs, à l'école, le premier prix de gymnastique est beaucoup moins important que le premier prix de philosophie.
Ça dépend pour qui. Pour les professeurs de philosophie, c'est sûr. Pour les professeurs d'éducation physique, il faudrait leur poser la question. Pour les élèves, je pense que ça dépend des élèves. Mais moi, je sais très bien que les élèves, évidemment, aient des cours de gymnastique ou d'éducation physique. En revanche, il faudrait distinguer le sport qu'on pratique et puis le sport qu'on regarde, ce qu'on appelle le sport spectacle, voire le sport business, parce que pratiquer le sport, c'est très bon, évidemment, pour la santé. Mais regarder un match de foot à la télévision en mangeant du pop-corn, en buvant du Coca-Cola ou de la bière, c'est beaucoup moins bon pour la santé. Et c'est ça qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'au fond, je le disais à l'instant, le sport n'a jamais été aussi médiatisé, aussi populaire, aussi célébré qu'aujourd'hui. Et en même temps, il n'y a jamais eu autant de personnes obèses, et notamment, il n'y a jamais eu autant d'enfants et d'adolescents obèses. Chercher l'erreur, l'erreur, c'est justement ça, c'est que autant faire du sport, c'est formidable, autant la place un peu exorbitante que le sport-spectacle occupe dans les loisirs de nos enfants et de nos adolescents, ça devient parfois un peu inquiétant. Et puis, il y a autre chose. C'est que pour beaucoup d'entre eux, le sport, et notamment le football, est devenu une telle passion qu'il n'y a plus que ça qui compte. Et notamment au moment de la victoire de la France à la Coupe du Monde de 98, moi j'ai vu mes trois garçons étaient fous, évidemment, de joie, d'enthousiasme. Mais tout d'un coup, il n'y avait plus que le foot qui comptait. Et bien forcément, du coup, les études, ça comptait beaucoup moins. La lecture, n'en parlons pas, vous voyez. Et j'ai craint que cette passion pour le sport en général et pour le foot en particulier ne nous vaille une génération, je ne dirais pas d'analphabètes, une génération notamment de jeunes garçons qui auront très peu lu. Et je crois qu'autant le sport est tout à fait une passion légitime, mais si on croit que le sport tient lieu de culture générale, que le sport tient lieu d'études scolaires, que le sport tient lieu de réflexion, et bien évidemment, on se trompe.
Oui, mais en même temps, je crois que vous avez amené un soir au stade Vélodrome à Marseille et que vous êtes sorti effondré, André Comte-Sponville.
Oui, parce que là, c'est encore autre chose, c'est qu'on célèbre souvent les valeurs du sport. Et dans mon petit livre, je réfléchis à ces valeurs, donc l'esprit d'équipe, le fair play, le respect de l'autre. Et puis un jour, effectivement, j'emmène mes trois footeurs, on était en vacances sur la Côte d'Azur, j'emmène mes trois garçons voir un match de foot au stade Vélodrome, je ne sais plus contre quelle équipe, et j'étais effondré. Parce qu'au lieu du respect de l'autre et du fair play, il n'y avait que des insultes. Dès que l'adversaire avait la balle, il se faisait siffler. Pas du tout parce qu'il avait fait une faute, simplement parce qu'il avait le malheur, si j'ose dire, d'avoir la balle. S'il avait le malheur de tomber, c'était pire. Il était accablé d'insultes homophobes, en l'occurrence. Dans d'autres stades, ça serait des insultes racistes. Mais c'est quand même un paradoxe que les valeurs du sport que tout le monde est censé respecter débouchent sur des insultes homophobes ou des insultes racistes dans les stades. Et donc, et c'était ça aussi la demande de l'INSEP, il faut réfléchir aux dérives du sport. Il ne s'agit pas de condamner le sport, bien au contraire, mais ça ne veut pas dire que tout ce qui se passe dans les stades est forcément respectable.
Voilà. Il faut savoir aussi, vous parlez peu du rugby, et on est très attaché à ce sujet du rugby, il y a de la philosophie chez certains rugbyman. Daniel Herrero, qui travaille avec nous sur Sud Radio, a dit un jour, reste toi-même, car c'est dans l'authenticité que l'on puise ses forces. C'est presque de la philosophie.
Oui, mais tout à fait, mais je crois que les grands coachs sont obligés de faire un petit peu de la philosophie. Alors c'est vrai que moi, j'ai moins réfléchi au rugby. D'abord, je suis de la France du Nord et qu'il y a peu de rugby dans la France du Nord. Et puis, il se trouve que le hasard a fait que mes garçons sont passionnés de foot plus que de rugby. Mais je crois que dans tous les sports, il y a quelque chose à la fois de respectable, d'intéressant, de passionnant et qui relève d'une réflexion philosophique. C'est l'investissement dans l'acte qu'on accomplit au moment où on l'accomplit. Ce que les Orientaux appellent le détachement par rapport aux fruits de l'acte. Socrate. Et je cite dans mon petit livre une phrase d'Amélie Mauresmo, donc quand elle était coach, qui disait à l'un ou l'une de ses élèves, si on peut dire, en tennis, elle lui disait exactement ceci: quand tu tapes dans la balle, ne pense pas à la victoire, ne pense pas à la défaite, pense seulement à taper dans la balle. Vous voyez, ce qu'on appelle le geste parfait. C'est-à-dire quand on n'est plus séparé de l'acte par l'espoir qu'il réussisse, mais on est totalement concentré, totalement investi dans l'acte qu'on accomplit au moment où on l'accomplit. Et bien, de ce point de vue, le sport peut être une leçon de sagesse, parce que ça revient à vivre au présent, à être pleinement dans ce qu'on fait.
Et vous citez des philosophes qui ont également parlé de sport, puisque Platon et Aristote parlaient déjà de gymnastique, André Comte-Sponville.
Oui, bien sûr, mais c'est un exemple qu'on prend, que tous les philosophes pratiquement ont pris. Il y a toujours un moment où ils se servent du sport comme exemple, sans en faire en même temps l'essentiel, parce que bien sûr, il y a plus important dans la vie que le sport. Alors, certains en font leur métier, je le comprends très bien, mais vous voyez, quand on choisit ses amis, on ne choisit pas ses amis en fonction de leur performance sportive. Vous n'allez pas dire de tel de vos amis: ah, c'est un type formidable, il court le 100 mètres en 10 secondes et demie. On s'en fout qu'il court vite. Les amis que l'on aime, c'est pour des qualités de cœur, des qualités d'intelligence, des qualités d'humanité, pas pour des performances sportives. Et c'est pourquoi, parfois, à force de célébrer les champions, il m'arrive de craindre qu'on oublie que l'essentiel est ailleurs. Ce qui fait la qualité d'un homme, ça n'est pas la rapidité de sa course, ça n'est pas son habileté à marquer un but, ce sont ses qualités d'esprit et de cœur, ce sont ses qualités humaines.
C'est ce que d'ailleurs disait Churchill, parce qu'il a soi-disant dit nos sports, ce qui est absolument faux. Apparemment, c'est une légende, je ne sais pas si vous le savez. Et le secret de sa sobriété et de sa santé, disait sa fille, c'est qu'il ajoute du whisky dans son eau, et on l'appelait le papa cocktail à la maison. C'est-à-dire, mais lui, il n'a jamais fait de sport, ça me paraît bizarre quand même.
Non, alors c'est la formule, peut-être apocryphe, mais la formule qu'on lui prête, je ne sais pas si elle est authentique ou pas. Donc un journaliste interrogeait Churchill sur le secret de sa longévité, et Churchill avait répondu: whisky, cigare, jamais de sport. Et ça m'amuse. Alors, moi, il m'est arrivé de faire du sport plus quand j'étais plus jeune que maintenant. Mais j'aime bien cette formule parce qu'au fond, c'est le contraire de l'hygiénisme dont on nous rebat les oreilles. Parce que là encore, si on fait de la santé la valeur suprême, alors effectivement, il ne faut plus boire, il ne faut plus fumer, il faut faire son petit jogging tous les matins. Je n'ai rien contre le jogging, bien au contraire, j'en ai fait moi assez longtemps. Mais encore une fois, il y a plus important dans la vie que de prendre soin de sa petite santé. Et rappelons que l'essentiel dans la vie, la valeur suprême, ça n'est pas la santé, c'est l'amour, c'est la justice, c'est la liberté.
Voilà, il y a quelqu'un que vous admiriez et qui vous a déçu, c'est Jacques Anquetil, qui n'était pas un modèle de sobriété, puisque tous les soirs, entre deux étapes, il pouvait faire la fête. Alors on dit qu'il a été dopé, mais rien n'a été prouvé dans ce sens.
Oui, mais enfin, il y a quand même de forte présomption, y compris dans sa mort prématurée. Non, mais moi, il m'a déçu d'entrée de jeu. C'est-à-dire que moi, quand j'étais passionné de cyclisme, mon père était passionné de cyclisme. C'était un cycliste amateur, mais de très bon niveau. Moi, j'ai fait un petit peu de vélo aussi, de façon parfois intensive. Et donc, j'admirais évidemment Anquetil, qui gagnait les Tours de France, mais qui était un petit peu décevant parce que il les gagnait à l'économie. En gros, il prenait une minute et demie d'avance au contre-la-montre et il gérait sa minute et demie d'avance pendant tout le Tour de France. Bref, il manquait de panache, comme disait mon père. Et puis arrive Eddy Merckx, le champion qui lui a suivi et qui là est un champion avec un panache extraordinaire, qui prenait tous les risques, qui faisait des échappées solitaires, etc. Et voilà, et moi j'aime mieux les champions qui ont du panache. Et donc c'est vrai que j'ai plus d'admiration pour Eddy Merckx que pour Jacques Anquetil.
Et vous dites que le sport fait partie de la vie, et c'est finalement en parlant de sport, vous faites l'éloge de la vie, André Comte-Sponville.
Ben oui, bien sûr, à propos de réflexion. Mon interlocuteur, c'est un livre d'entretien, me demandait pourquoi est-ce que le foot occupe cette place si grande dans le sport, et je répondais que c'est pour une raison paradoxale, c'est que le football est un sport imparfait. Et c'est ce qui explique sa popularité. Alors, qu'est-ce que ça serait qu'un sport parfait ? Ben, c'est un sport où c'est toujours le meilleur qui gagne. Par exemple, une course à pied, vous n'allez jamais dire « celui-là, il a couru mieux, mais il a perdu. L'autre, il a couru moins bien, mais il a gagné. » Ça ne peut pas arriver. Et même au tennis, c'est exceptionnel. Alors qu'en football, au football, qui est un sport collectif, mais où on joue avec les pieds, organe par définition malhabile, il n'est pas rare que la meilleure équipe ne gagne pas. Il n'est pas rare qu'une équipe joue mieux et perde. Et donc, Le football n'est pas juste de ce point de vue, mais la vie non plus. Et c'est parce que le football ressemble à la vie, parce que le football est injuste comme la vie, parce qu'il y a, comme dans la vie, une part de hasard, d'aléas, les erreurs d'arbitrage, etc., que ça suscite davantage de passion. Voilà, c'est parce que le foot est un sport imparfait qu'il est devenu le sport le plus populaire, parce qu'il ressemble à la vie, et donc ça prouve que la vie est encore plus importante que le sport.
Voilà, et pour un sport intellectuel que je recommande à celles et ceux qui nous écoutent, c'est de lire que le meilleur gagne d'André Comte-Sponville chez Robert Laffont, où vraiment on découvrira effectivement une autre façon d'aimer le sport. Merci André Comte-Sponville d'avoir participé aux Clés d'une vie, puis continuer à réfléchir. Il y a beaucoup de choses à faire en ce moment dans le monde dans lequel on vit.
Merci à vous.
Merci, les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.